Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce troisième épisode de Retour en force. Je suis Yoann Carrière à l'animation aujourd'hui, accompagné de Pierre-Luc Mongeon, Étienne Boutier, Thomas Lafont et Vincent Orellana Pépin. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui alors qu'on s'apprête à revenir en force sur les grandes nouvelles du monde du sport de la dernière semaine?
Bonjour Yoann.
Très bien.
Très content de vous l'entendre dire. Vous avez l'air de bien aller également là, pour ceux qui sont abonnés à notre Patreon. Vous pourriez voir là, les beaux visages de nos collaborateurs aujourd'hui qui ont tous l'air en forme malgré ce début de session qui peut parfois être à connotation négative pour certaines personnes. D'ailleurs, on souhaite là, un bon début de session universitaire à tous les étudiants et étudiantes qui nous écoutent, université et cégep également, le retour à l'école là, pour tout le monde. On ne vous oublie pas, comme dirait notre premier ministre François Legault. Oui. On va commencer avec notre première nouvelle là, qui a frappé dans la semaine parce que, Étienne, pour une rare fois, c'est pas le Canadien de Montréal qui est l'équipe qui occupe le plus de place parmi les débats de la scène de sport montréalaise. C'est non plus l'Impact de Montréal, mais bien le CF Montréal, le club de foot Montréal. Tout un débat sur la scène sportive médiatique montréalaise. Bref, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet?
Oui, ben effectivement, très, très grosse semaine pour les fans de sport à Montréal, mais plus précisément pour les fans du club de foot Montréal. C'est effectivement le nouveau nom de l'Impact de Montréal. Ça a été annoncé jeudi et depuis, la twittosphère et les réseaux sociaux sont en feu. Bon, non seulement il y a eu le changement de nom du club, il y a aussi le changement de logo qui est maintenant un logo circulaire avec écrit Club de foot Montréal. Bon, si vous ne l'avez pas vu, comme certaines personnes ici, on nommera personne, mais si vous ne l'avez pas vu, là, je vous invite à aller regarder ce logo-là, justement qui attire énormément les critiques. Et il y a aussi le changement de slogan là, qui est plus « Tous pour gagner ». Qui passe pas avec la COVID, là, on peut plus tousser, que ce soit pour. et c'est maintenant Droit Devant, qui pour moi est plus une chanson des Cowboys Fringants qu'un slogan. Mais bon, après ça, c'est ça. Il y a énormément de critiques. Je veux juste quelques précisions. Je trouve ça. Quand on voit sur les réseaux sociaux les nombres de likes, les nombres de mentions j'aime, et les sondages, on voit qu'il y a un taux de satisfaction à peu près de 60% face à tout ce rebranding-là du club de foot Montréal. Après ça, quand on va voir les commentaires, ben c'est là que les gens qui sont farouchement contre sont très, très, très vocaux. J'y vais d'une théorie psychologique à 5 cents. Les fans de soccer à Montréal, les fans de feu l'Impact de Montréal, je crois que dû au fait que le club, je ne veux pas dire un sport marginal, mais est un sport qui est le deuxième ou même le troisième parfois à Montréal, que le sport et l'équipe le soient. Je crois qu'il y a un certain trouble d'opposition, un espèce de sentiment d'être seul et de vouloir aller contre tous les vents. Je crois que ce rebranding-là, le logo et tout, avait deux prises contre lui. Dès le départ, je pense que peu importe qu'est-ce qui arrivait, les gens n'allaient pas nécessairement être très satisfaits de ça. Après ça, il y a des gens qui sont allés faire du vandalisme sur le logo dans les bureaux de l'Impact au Stade Saputo. qui trouve ça un peu amusant. Mais c'est ça. J'ai vraiment le goût, les gens là, qui sont très vocaux, qui sont contre. Je comprends que c'est très émotif, là. Mais j'ai goût de prendre ces gens-là dans mes bras et de leur dire que tout va bien aller, tout va être correct. Ce n'est qu'un logo et je terminerai en disant que tout ça, toute cette image-là, ça ne s'adresse pas aux fans de soccer, à ceux qui tripent sur le club de foot Montréal présentement, ça s'adresse à d'autres personnes, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas là. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, je ne le sais pas. Mais que tous les fans ont leur avis là-dessus, mais au fond, tout ça ne s'adresse pas à eux. Donc, terminer là-dessus. Je sais pas si vous, les gars, vous avez des avis. On pourrait, tu sais, je sais pas là, si PA, tu veux en parler. Tu en as parlé un peu, toi aussi, cette semaine.
Je voulais envoyer la balle à truc parce que si Étienne est une de ces personnes qui évite des fois de prendre position sur ces débats-là, Pierre-Luc Mongeon est habituellement un petit peu plus vocal par rapport à ça. Mon cher, c'est quoi ton opinion sur ce rebranding-là, comme dirait Étienne?
Ouais, ben écoute, tu l'as dit, là, je suis pas quelqu'un qui affiche beaucoup sa position sur les réseaux sociaux ou même dans nos podcasts, mais je vais y aller de ce que je pense très, très logiquement et puis très banalement. Il y a deux choses. Le rebranding en tant que tel, le logo, moi, je suis pas contre. Je trouve que le résultat il est quand même beau. Bon, c'est sûr que là, quand on passe à Impact de Montréal, à Club de soccer, c'est normal que ça va déranger des gens, puis c'est correct. Le logo, je le trouve super beau. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus de négatif, même que j'ai vite comme ça, j'ai rien qui me dérange en tant que tel. Là où ce que ça peut me déranger, c'est l'espèce de campagne promotionnelle qu'il y a eu sur les réseaux sociaux avec les photos et les petites phrases poétiques. Ouais, ça, j'ai moins aimé ça, c'est certain. Là où ce qu'on aurait pu aller chercher un bon entre-deux du côté de l'Impact, on a un changement identitaire qui est fait. Je pense pas que ça va changer. C'est pas un logo aux allures de Chicago Fire. Fait que je pense pas qu'on va revenir à Impact de Montréal. Qu'est-ce que le club aurait pu faire pour conserver comme quelque chose de bien puis que les fans soient quand même satisfaits? Ben, ça aurait pu être de simplement moderniser le logo, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était de changer l'identité parce que bon, depuis que l'Impact est en MLS, depuis 2012, ben, ça n'a pas été un énorme succès jusqu'à présent. Fait que de changer de nom, changer d'identité, qu'est-ce que ça va apporter? Ben, on espère que ça va apporter une vague de succès. Vas-y, Étienne.
Je pense que aussi, qu'est-ce qui a fait tiquer beaucoup de partisans, c'est la conférence de presse de Kevin Gilmore, le président du club, et de Justin Kingsley, qui est le créateur de tout ce rebranding-là. Cette conférence de presse-là était très étrange. On sentait les deux hommes qui venaient défendre quelque chose qui savaient déjà qui était pas indéfendable, parce que c'est clairement pas indéfendable comme concept, mais on les sentait pas tout à fait à l'aise avec ce qu'ils venaient proposer. Il y a eu des phrases creuses qui ont été lancées. Là. Je pense à Justin Kingsley Kevin Gilmore, au début, il dit « J'ai demandé à Joey pourquoi il a appelé ça l'impact parce qu'il voulait un impact » et je lui ai répondu « Joey, c'est réussi ». Ça sonnait des phrases creuses à la Justin Trudeau, tout à fait incarné. On comprenait pas exactement qu'est-ce qu'on... Puis Justin Kingsley qui est arrivé avec... Puis c'était vraiment, vraiment étrange cette conférence de presse-là. On a dit dans cette conférence de presse que le flocon, au début, qui est constitué des M pour Montréal de tous les côtés, on a dit que c'est la Ligue qui a remarqué que ça ressemblait à un flocon, que c'était pas le créateur du logo, Justin Kingsley, qui avait vu le flocon. Mais tout le rebranding a été fait autour du flocon. Toute la communication s'est faite autour du fameux flocon. Donc, ça, on ne voulait pas le faire au début, puis qu'on a fait toute notre com dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments. On dirait qu'on a fait du bricolage avec du bâton à colle, puis qu'on a essayé de montrer ça, puis on a dit voilà, c'est ça. Au final, je trouve que le rebranding est relativement. Je dis pas réussi, mais on aurait pu le faire mieux passer. Mais là, je pense que la communication est un échec sur toute la ligne dans ce rebranding-là.
Effectivement. Thomas, Vincent, je sais que tu viens en fait de voir le logo, je pense. Mais Thomas, toi, j'imagine que tu l'as vu depuis quelque temps. Est-ce que tu as une opinion là-dessus?
Ben, personnellement, moi, je n'aime vraiment pas ce logo-là. Je trouve qu'il ressemble un peu au logo du SPVM. Puis honnêtement, j'aimerais pas avoir un genre de logo comme ça. Ça fit pas trop avec une équipe sportive. Honnêtement, ça manque d'éléments sport dedans, je trouve. Il y a des éléments, je sais pas, des éléments qui fait action comme que dans ces logos de feu l'Impact avait. Donc, c'est ça. J'aimerais qu'il fasse... fasse Pierre-Luc.
Je te laisse terminer ton idée, là, mais ça pour dire que j'allais dire, je suis pas d'accord avec toi, mais termine ton idée, j'embarque après.
Ben ouais, c'est ça. Ben, je m'attendrais à ce qu'il fasse un rebranding comme que Chicago Fire a fait cette année.
Okay. Après ça, il faut qu'on arrête parce qu'il y a vraiment d'autres sujets, là, mais le Chicago Fire aurait jamais, je peux le dire 20 000 fois, jamais dû rétro-pédaler sur son logo. C'est une catastrophe pour tous les autres clubs qui doivent maintenant haïr le Fire de Chicago. Juste pour rappeler à ceux qui sont pas au courant, le Fire de Chicago a fait un rebranding l'année dernière, a changé son logo et à cause qu'il était très laid, ils ont décidé cette année de revenir et de refaire un autre logo. Là, tu viens de donner du pouvoir à des gens qui ne devraient pas en avoir, des partisans qui parlent encore plus fort parce qu'ils pensent que leur... La jurisprudence Fire de Chicago est une catastrophe, puis va être une catastrophe en Amérique du Nord, puis mondialement, à cause qu'ils auraient trop pédalé comme ça. Il aurait vraiment pas dit, il aurait dû l'assumer tant qu'il y a long, il va. Là. Mais ça, c'est mon tout sens.
Moi, de la façon, rapidement, la façon dont je le vois, c'est assez simple. C'est, ça se résume à aide du succès sur le terrain, puis les doutes, puis les mauvais commentaires sur ton logo vont passer assez rapidement. Je vous donne l'exemple de l'équipe de football à Washington, dont le nom, c'est littéralement l'équipe de football de Washington. Les gens criaient du haut de leur poumon, criaient sur tous les toits cet été. Soudainement, ils font les playoffs, puis « Ah non, soudainement, regarde, on aime ça, ce petit nom-là, ça, on est différent. » Si tu as du succès sur le terrain, le nom passe 10 pieds par-dessus la tête. Je pense que c'est aussi simple que ça. Là.
Voilà.
Exactement. Et Pierre-Luc, le club de foot Montréal là, n'a pas tardé à essayer de faire les manchettes d'une autre manière qu'avec ce logo qui franchement divise les partisans. Mais c'est en faisant quelque chose qui va peut-être diviser les partisans encore plus parce que là, on a un premier échange et c'est Maxi Urrutí qui quitte le club.
Ouais, je me souviens, j'ai sorti un article sur les réactions des partisans. Là, je les ai contactés personnellement, puis il y en avait un qui me disait c'est pas le logo ni les produits dérivés qui vont marquer des buts puis qui vont faire du succès pour l'équipe. Ben, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Fait que tout ça pour dire aide du succès et on en reparlera. Fait que pour s'aider, ben écoutez, l'Impact de Montréal s'est débarrassé de Maxi Urrutí. Et puis, dans le fond, ils ont fait un échange avec le Houston Dynamo FC. Donc, ça a été annoncé il y a à peine quelques minutes. Donc, ça a été annoncé lundi après-midi. Je vous lis la première phrase du communiqué. Le CF Montréal a annoncé lundi avoir fait l'acquisition du défenseur central slovène Alisha Struna et d'une place de joueur étranger pour la saison 2021 du Houston Dynamo FC. En retour de l'attaquant Maxi Urrutí et d'un deuxième choix et d'un choix de deuxième ronde lors du Super Draft de la MLS en 2022. Donc, l'Impact, c'est des parties de Maxi Urrutí qui a récolté seulement 9 buts et 8 mentions d'aide en 46 matchs avec l'Impact. C'était avec l'Impact à cette époque. Et puis, ben là, on s'en va chercher un défenseur central. Donc, on vient renforcer notre ligne défensive. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que ça va être bien, ça va être positif. Le gars qu'on est allé chercher, Kiki, qu'on se surnomme, il a disputé 46 matchs en MLS. Juste avant ça, il est arrivé de Palermo FC, donc c'est en Italie. C'était en Serie A à l'époque, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, corrigez-moi. Et puis voilà, donc il a joué quand même 4046 minutes là, en MLS. Donc c'est un joueur qui connaît bien la Ligue ici, fait qu'on espère qu'il va apporter quelque chose de positif pour Club de foot Montréal.
Maxi Urrutí aura souffert, à mon avis, de la blessure de Piatti à sa première année. Je pense qu'on est allé chercher à très fort prix pour avoir une avant-centre très complémentaire à l'ailier argentin. Puis la blessure aura, à mon avis, vraiment scrappé la venue de ce joueur-là qui est quand même assez talentueux, mais qui a malheureusement pas confirmé comme il devait avec l'Impact de Montréal. Puis c'est un très, très gros salaire dont le club de foot Montréal vient de se débarrasser. Ça va prendre du temps, je pense.
Ça va prendre du temps.
Changer un peu ce réflexe-là, puis peut-être que ça ne changera jamais, mais oui.
Ça ne changera jamais, effectivement.
C'est bien aussi comme ça. Ça peut être un surnom, j'adore.
Oui, effectivement. Pourquoi pas? On va changer de sport complètement là, pour s'en aller sur un sport qui se dispute plutôt à l'intérieur, soit le basketball. Vincent, Shaquille O'Neal est reconnu comme étant l'un des pires joueurs au niveau du pourcentage de réussite sur les lancers francs. Et s'il continue comme ça, ben Giannis Antetokounmpo pourrait connaître une saison à l'image de ce qu'on retient de Shaquille O'Neal.
Ben, écoute, si Shaquille O'Neal entendait ce que je m'apprête à dire, il me lancerait par la fenêtre parce que je suis sur le point de dire quelque chose avec lequel il ne serait pas d'accord. C'est que Giannis Antetokounmpo, c'est un meilleur joueur que Shaquille O'Neal l'ait jamais été. Et ce qui est surprenant avec Giannis, ben, la preuve est dans les statistiques. Savez-vous ce que c'est un PER, en fait? En anglais, c'est le Player Efficiency Rating. c'est qu'ils prennent toutes les statistiques, ils multiplient ça par le minute de temps joué, ils divisent ça par une autre formule qu'on ne connaîtra jamais, puis ça donne un chiffre, d'accord? Le chiffre tourne autour de 25-26 pour les bons joueurs. Le meilleur PR pour une saison de tous les temps, c'est Giannis Antetokounmpo qui l'a eu à 31.8. On parle, c'est un chiffre meilleur que LeBron, c'est un chiffre meilleur que Jordan, c'est un chiffre meilleur que Will Chamberlain, que tout le monde. C'est le meilleur de tous les temps. Donc, c'est un très, très bon joueur. La seule faiblesse dans son jeu, par contre, c'est les lancers francs. Et c'est quand même surprenant parce que toutes les autres facettes de son jeu se sont améliorées d'année en année, sauf celle-là. Celle-là est devenue moins bonne à chaque année. Il a commencé sa carrière, il tournait autour de 77%. Ensuite, c'est allé à 76, 73, 63. Puis là, cette année, il est à 57,5% de la ligne de lancer franc. Et ça, pour un joueur de concession, pour un joueur qui est un des deux meilleurs au monde, ça passe pas la cote. C'est vraiment pas assez bon. Et c'est surprenant parce que c'est pas mal la chose la plus simple à faire au basket. C'est t'es sur place, la shot n'est pas contestée, puis tu as le temps de prendre la shot, puis il tourne à 58%. Et là, pas mal là. Ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on a tous des choses comme ça, des tâches simples qu'on devrait être capable de faire assez facilement, mais qui sont dans notre tête. On a un bug à ce moment-là, puis on a un blanc de mémoire ou quelque chose, puis on n'est pas capable de la faire. Je vous donne l'exemple pour moi qui est similaire, c'est devant un urinoir. Je ne suis pas capable de viser, je la manque tout le temps. C'est comme ça, il y en a cette vidéo. Il n'est pas capable de viser à la ligne de lancer ça, il la manque tout le temps. Et ce que je voulais vous demander, en fait, c'était avez-vous des tâches simples comme ça que vous devriez être capable de faire relativement facilement, puis vous n'en êtes pas capable malgré sa simplicité.
Vincent, on ne se connaît pas depuis énormément longtemps. J'ai goût de te faire un câlin.
Hey, sérieusement, c'est le genre de comparaison. Là, que...
C'est une très bonne comparaison.
On est solide sur les comparaisons. Là. Je reviens là-dessus aussi. Ce matin, le collègue Antonin Martinovitch a sorti un article dans lequel il compare l'arrivée de Kirill Kaprizov avec le Wild du Minnesota à une vieille tante multimillionnaire qui est décédée puis qui te lègue tout son argent après que tu aies investi dans les actions du Blockbuster. Wow. Sérieusement. Wow. Là,
allez lire cet article.
Les comparaisons aujourd'hui sont incroyables au Club Éco.
Mais c'est vrai, au primaire, on visait l'urinoir, puis souvent on visait pas assez haut, on visait à côté. On a tous eu ce problème-là, puis Giannis s'en est jamais sorti. C'est apparemment la même chose tout le temps, ça pire en pire en pire. Fait que je vois pas d'autre explication possible que c'est juste un blocage mental.
Voilà, la différence, c'est que je pense qu'aujourd'hui, toi, tu es capable de viser l'urinoir comme il faut.
Malheureusement, je ne me prononce pas là-dessus.
On ne peut pas les détails de toute façon.
Donc la règle là, de pas être à côté de quelqu'un à l'urinoir s'applique vraiment à Vincent.
Et Yannis a beaucoup trop apparemment.
À chaque fois que je m'installe un urinoir, 15 secondes après, c'est une zone sinistrée. Faites attention.
Alors, on est sérieux au Club École.
Oui!
Ben, j'ai donné les statistiques, puis une comparaison, puis je pense qu'elle est valable. Puis...
Voilà.
C'est valable, en effet. Si Giannis Antetokounmpo reste quand même là, un des joueurs dominants dans la NBA, il y a une équipe qui, cette année, va se démarquer encore plus qu'elle le faisait déjà, en fait. Les Nets de Brooklyn ont frappé un coup de circuit à très grand coup, mais là, sont assurément les favoris pour remporter le titre cette année. Et Thomas arrive avec plus de détails.
Oui, comme que tu viens de dire, les Nets sont placés comme les favoris pour remporter le titre NBA cette année en faisant l'acquisition de James Harden, des Rockets. L'arrière étoile avait remporté le titre de joueur du Sud en 2018 et il est considéré comme facilement un dans le top 5, si c'est pas le top 10, c'est pas top 5 des meilleurs joueurs d'NBA présentement. Pour l'acquérir, par contre, les Nets ont cédé à fort prix dans un échange à 4 équipes, ce qui est quand même assez rare dans le monde du basket. Voici les détails d'échange. Les Nets ont acquéri Harden ainsi qu'un choix de deuxième ronde, alors que les Cavaliers de Cleveland ont tant qu'eux reçu Jarrett Allen et Tashaun Prince, un joueur de banc. Les Pacers d'Indiana ont reçu Caris LeVert, un choix de deuxième ronde un choix de deuxième ronde? Est-ce qu'un autre choix de deuxième ronde qu'on reçoit en compensation de Levert, puisque ses examens physiques ont révélé qu'il avait une blessure au dos?
Caris Levert?
Oui.
Il y a une masse sur son rein.
Une masse sur son rein? Ah, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas ce que j'avais lu, malheureusement. OK. Les Rockets Tankers ont reçu un énorme package. Désolé, je ne suis pas un terme en français présentement. Dante Exum, Rodion Corax, Victor Oladipo. Est-ce que quatre choix de première ronde, les choix de première ronde des Nets en 2022, 2024 et 2026, ainsi que le choix de première ronde des Bucks en 2022. Ils ont également reçu quatre échanges de choix avec les Nets en 2021, 2023, 2025 et 2027. Ça, la raison pour que des échanges de choix, c'est qu'au basket, t'as pas le droit d'échanger tes choix de première ronde. T'as pas le droit d'échanger tes choix de première ronde chaque année consécutive. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle la Stepien Rule. Pour faire un peu une historique de toute la saga de Harden, les premières rumeurs d'échange avaient sorti le 17 septembre. Donc, on parle vraiment que c'est vraiment une saga qui s'est étirée très longtemps. Par contre, à Houston, ça a brassé cet automne. Le DG Daryl Morey a quitté son poste pour accepter les mêmes fonctions à Philadelphie. L'entraîneur Mike D'Antoni, le contrat d'entraîneur Mike D'Antoni n'a pas été renouvelé, alors que l'autre vedette des Rockets à l'époque a été échangé à Russell Westbrook en échange de John Wall. Harden est reconnu comme ayant un problème d'attitude assez important. Donc, son marché, il n'y a pas beaucoup d'offres pour son marché, ce qui est quand même surprenant considérant que c'est un joueur étoile. Et en terminant, les 76ers avaient une entente avec les Rockets concernant Ben Simmons et Matisse Thybulle, mais l'entente est tombée à l'eau à la dernière minute et c'est pour ça que Harden est maintenant chez les Nets de Brooklyn. C'est ça.
Mais l'affaire avec tu dis qu'il y a un marché. Le marché, c'est un petit marché pour échanger Harden. Il pouvait juste aller à certaines équipes. La raison pour ça, en fait, c'est que quand tu échanges un gros morceau dans la NBA, il faut que tu reçoives un gros morceau en retour également. Ils vont pas échanger Harden pour juste quatre choix ou pour quatre espoirs, right? Donc, le nombre d'équipes qui avaient un morceau aussi gros à offrir en retour, c'était basically juste Boston, Philadelphie puis Brooklyn. Boston ne va pas le faire parce que Tatum, c'est un intouchable, puis Jaylen Brown, c'est un intouchable que la ville adore pour mourir. Puis s'il échange, il y aurait des manifestations comme il y a eu mercredi passé au Capitole. On vient de lire, ça vient de sortir qu'il y avait une entente de principe avec Philadelphie. Philadelphie était même allé voir la semaine passée Ben Simmons pour lui dire « on te ship à Boston, il irait juste à signer le papier ». Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé dernière seconde pour changer ça, mais apparemment, il y a eu un petit quelque chose qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Donc, la seule équipe qui restait, c'était pas mal Brooklyn, puis c'est pour ça que Brooklyn a eu Harden, malheureusement.
Ben, la réunion entre Harden et Kevin Durant risque de donner des flamèches. On l'a vu hier, ce premier match de Harden à Brooklyn, et vraiment, c'est un excellent duo, ces deux-là.
Ouais, mais à combien de temps ça va durer? Parce qu'on parle de James Harden, comme tu dis, qui a un énorme problème d'attitude. On parle de Kevin Durant, qui a également un énorme problème d'attitude. Puis on parle de Kyrie Irving, qui pense que la Terre est plate. Une personne particulièrement adaptée à coopérer avec d'autres gens.
James Harden, en plus d'avoir un problème d'attitude, là, je veux faire cela à mes amis du Cannes Football Club. Là, j'ai vu des photos. Là, lui, c'est un candidat au trou de poutine solide.
Ouais, mais t'as-tu vu les photos du lendemain?
Ouais, c'est ça.
J'ai pas vu, non?
Il a perdu 50 livres en deux jours.
Mais voyons donc.
C'est fou. Oh, oui.
Non, mais c'est...
Il y a une des deux photos qui a été prise d'un mauvais angle. Parce
ouais.
Que,
ouais, non, c'est sûr, mais ça a l'air d'un joueur qui revient d'un camp d'entraînement, un Higuain, là, qui revenait des camps d'entraînement puis qui est un peu chubby. Là. Ça n'a pas l'air genre, je sais pas.
C'est un Big Mac de trop.
C'est également pas juste son apparence qui était assez horrible, c'était sa performance sur le terrain, parce que oui, il va mettre 30 points par match, mais son effort en défensive, c'était lamentable. On parle de la défense avec ses poignets, c'était complètement ridicule.
Ouais, puis en plus, Harden, dans le début de saison des Rockets, il affectait grandement la chimie de Marcus Cousins et John Wall. Ils ont fait plusieurs commentaires sur l'effet que Harden avait sur la chimie d'équipe.
Hey, DeMarcus Cousins, c'est pas une très bonne personne. DeMarcus Cousins, c'est un coéquipier de merde. Il a été avec plusieurs équipes, puis c'est pas moi qui le dis, c'est des faits. Tout le monde sait que DeMarcus Cousins, c'est un mauvais coéquipier. Puis pour que ce gars-là dise de Harden que Harden manque de respect envers tout le monde, faut que Harden ait été complètement désagréable pendant tellement longtemps.
Effectivement, en effet, là, c'est... le basketball en général a ses problèmes là, sur et en dehors du terrain, là, assez uniques en termes d'attitude et d'égo chez les joueurs.
C'est comme Keeping Up with the Kardashians.
C'est des personnages. Là,
voilà. Mm-hmm. Exactement, c'est carrément. Oui, effectivement. Parlant d'un autre sport où certaines personnes vont avoir... Là, la bouche qui se laisse aller de temps en temps. Aux arts martiaux mixtes, il y a beaucoup de combattants qui ont également des petits problèmes d'attitude. Conor McGregor en est un exemple assez flagrant.
Quand ton métier, c'est recevoir des claques à gueule, ça se peut que tu aies un peu de trouble.
Exactement. Mais toi, Étienne, c'est pas de Conor McGregor ni même de Dustin Poirier que tu viens nous parler. C'est encore une fois de Louis et Charles Jourdain.
Ben oui, des nouvelles des deux. Soit dit en passant, là, je donnerai pas de nouvelles sur McGregor Poirier. Ce combat-là, en tout cas, on s'en fout. Je vous parle des frères Jourdain qui ont fait les manchettes cette semaine. Ben, j'avais parlé de Louis Jourdain la semaine passée, qui combattait vendredi dans la journée au UAE Warriors 15. Malheureusement, pour Louis, ça s'est soldé en une défaite en décision unanime face à, pardonnez-moi, Avli Johan Hamidov. Une défaite de 30-27 trois fois, résultat un peu décevant pour Louis Jourdain, qui, à mon avis, avait un coup à jouer, mais son adversaire, qui je crois était un partenaire d'entraînement ou un ami ou un proche de Khabib Nurmagomedov, qui était dans la foule pendant l'événement. Je pense que ça n'a pas joué. Hamidov était vraiment un favori de la foule. Louis Jourdain aurait vraiment dû en faire beaucoup plus pour aller chercher ne serait-ce qu'un round. Il a perdu les trois rounds. Donc, défaite malheureuse pour Louis Jourdain qui voit maintenant sa fiche de 5 victoires et 3 défaites. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. S'ils vont lui donner un autre combat aux Warriors, c'est sûr que là, pour l'instant, ben, c'est compliqué quand même parce qu'il n'y a pas d'organisation locale qui évolue. Puis, ben, à part le plus proche, c'est l'UFC, le Bellator, puis Louis Jourdain n'est pas encore à ce niveau, quoi qu'à 23 ans. Il y a encore énormément de temps devant lui et de potentiel. Son frangin, son aîné, Charles Jourdain, ben lui, je crois que c'est hier ou avant-hier, là, a annoncé qui était son adversaire pour son combat du 13 mars prochain. Il s'appelle Steve Garcia Jr. C'est un combattant que je ne connais pas, qui n'a fait qu'un combat dans l'UFC, une défaite contre Luis Peña. Puis là, ça fait longtemps, c'est en février 2020. Donc, il y a un phénomène là, qu'on appelle en anglais le ring rust. Quand ça fait quelques mois qu'on n'a pas combattu, des fois, on a les jambes un peu engourdies quand on entre dans l'octogone. Mais là, savoir si Steve Garcia va avoir ça quand il va combattre Charles Jourdain. Charles Jourdain qui est quand même pas mal plus expérimenté dans l'UFC que lui. Donc, ça va être un combat dont je vais vous parler assurément là, quand on va arriver vraiment dans cette période-là. Mais c'est le 13 mars, Charles Jourdain, combattant québécois, sûrement le combattant québécois le plus talentueux de l'UFC qui va croiser le fer à Steve Garcia dans une carte qui est, ma foi, très intéressante. Mais ça, je vais avoir le temps de vous en reparler assurément.
Assurément. Et Étienne, je veux t'amener parce que tu parlais, tu disais que le combat McGregor-Poirier, on s'en fout, mais ouais, je veux quand même entendre ton commentaire parce que ça n'a pas pris de temps finalement avant que les rumeurs concernant le retour à la compétition de Khabib Nurmagomedov face sur face, qui a dit que bon, si le combat était assez intéressant, il allait peut-être être tenté de revenir dans l'octogone. Stunt publicitaire ou c'est vraiment une possibilité?
Est-ce que vous vous rappelez du vidéo Leave Britney Alone?
Fuck yeah, man, of course.
Moi, c'est exactement ce feeling-là que j'ai quand on parle tout le temps de Khabib Nurmagomedov. Ce gars-là ne veut pas revenir. C'est clair qu'il ne veut pas revenir. En même temps, il y a une organisation, le Eagle Fighting Championship, qui a besoin de mettre de l'avant, de promouvoir. Donc, c'est pour ça que Khabib, on continue à le voir. Puis je pense qu'il aime quand même bien les caméras, mais présentement, Khabib ne veut pas combattre. Dana ne comprend pas ça. Dana White ne comprend pas ça. Puis là, c'est dire tout sans rien dire. Ce qu'il a dit, c'est que s'il aimait bien ce qu'il voyait de McGregor-Poirier ou du combat d'avant qui va être Michael Chandler contre Dan Hooker, peut-être qu'il va retenter un retour. Mais ça veut dire que ça ne l'intéresse pas du tout de revenir. En tout cas, pour l'instant, Khabib, c'est sûr qu'il va revenir essayer d'aller chercher son 30-0. Mais puis en plus, je trouve ça, moi, ça me met tellement mal à l'aise parce que il a besoin de faire le deuil de son père qui était son entraîneur. Il a besoin, je pense qu'on peut juste lui laisser faire ça. Puis il va revenir assurément, ça sert à rien de presser. Même Khabib l'a dit à Dana White qu'il ne voulait même pas retenir la ceinture en otage. Si on lui enlève son titre, ben on est prêt à lui enlever son titre. Puis après ça, arrivera, qu'est-ce qui arrivera? J'aimerais ça qu'on laisse Khabib alone pendant un an, deux ans, puis il reviendra quand il reviendra. Vincent.
Petit commentaire là-dessus. J'ai l'impression que c'est en tant que partisan, on a tellement été conditionné à voir nos athlètes préférés comme des super-héros qu'on s'attend, non seulement on s'attend à ce qu'ils performent lors de tragédies, mais on le veut, tu sais, on en a besoin parce que ça va encore plus les mettre sur un piédestal. Je donne l'exemple de Tiger, tu sais, y a-tu des amateurs de golf? Tiger Woods, la semaine après que son père est décédé, il est allé gagner l'US Open. Brett Favre, le jour après que son père soit décédé, il est allé jouer à Lambeau puis il a lancé 5 touchdowns dans une game, je pense que c'était les Raiders. Fait qu'on veut voir ces personnes-là comme surhumains puis on s'attend à ce qu'ils fassent des choses surhumaines. Puis je pense que c'est pas mal ça les attentes que tout le monde a envers Khabib.
Mais peut-être bien, mais Khabib a perdu son père et a démonté Gaethje en un round et demi, a pleuré, a pris sa retraite, puis après ça, je pensais qu'on allait laisser tranquille. Puis ça revient aussi à j'ai chroniqué plusieurs fois là-dessus, c'est que quand on connaît pas la limite du combattant, on veut presser le citron au complet parce qu'on veut savoir. Puis c'est la même chose. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de rumeurs sur George St. Pierre. Il est à retraite depuis 2 ans. Il n'a pas combattu depuis 3 ans. Il y a un combat dans les 8 dernières années. On peut-tu juste arrêter puis le laisser vivre sa retraite tranquille? Mais non, étant donné qu'il est parti sur 15 victoires de suite, on veut absolument savoir où la limite. Puis Khabib, il est sur un 29-0. C'est même pas un chiffre rond en plus. On veut savoir c'est quoi la limite du sommet de Khabib Nurmagomedov. Puis je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ce qu'on la sache peut-être pas non plus.
Ben, il y a quelque chose aussi, je pense, là, qui joue dans ça, c'est que les sports individuels, genre les sports de combat surtout, c'est pas comme par exemple au hockey ou au football où quand un joueur va prendre sa retraite, ben il prend sa retraite à la fin de la saison puis c'est fini, on n'en parle plus, il revient pas. Ouais. Tandis que dans les sports comme les arts martiaux mixtes, ben il y a souvent des retraites plus graduelles où ils vont prendre leur retraite, mais ils vont revenir. Fait que les amateurs ont le temps de faire leur deuil au fur et à mesure que le personnage disparaît. Puis le meilleur exemple que je peux donner, Thomas étant un amateur de lutte, là, je sais qu'on n'est pas tous d'accord pour dire que la lutte est un vrai sport, mais quand même, l'Undertaker a pris sa retraite à peu près 5 fois dans les 3 dernières années et demie.
Exactement.
Parce que le monde ne veut pas le laisser partir. Donc, c'est un peu ce phénomène-là que je crois qui est similaire là, avec les arts martiaux mixtes où on ne veut pas que ça arrête d'un coup sec. Donc, on veut vraiment les pousser à revenir une ou deux fois dans l'année sur une période plus longue.
Mais vas-y, Thomas, as-tu quelque chose à dire sur ton ami l'Undertaker?
Ouais.
Ah, le micro
Attends,
est...
Ça
a recommencé
à
voler. Ah, yes, on
le perd.
Nice.
OK. Là, ça marche. Puis, très vite, ta question, ça a bugué.
Non, mais c'est juste, je voulais rebondir, mais si tu avais un commentaire à faire sur l'Undertaker, sur sa retraite.
Ouais, ben, c'est ça. Dans le monde du sport, surtout les sports de combat, Il y a une citation, Never Say Never, jamais dire jamais, et c'est vraiment représentatif à la retraite dans les sports de combat, que ce soit la lutte, la UFC ou même la boxe. Je pense à Floyd Mayweather, là, serait temps qu'il arrête, puis je pense qu'on a dépassé la limite de Floyd Mayweather. Puis
ben, Mike Tyson, bordel.
Ouais. Ah, puis, exactement, lui avec.
Vous pensez quoi de José Canseco qui va se battre le 5 février?
Ben, voyons donc.
José Canseco va se battre dans un gala de boxe en Virginie Occident, en West Virginia, dans un sous-sol d'un diner. Ça va être absolument incroyable. Je vais acheter le package pour 20$ et je vais écouter ce combat-là avec
beaucoup de 20$! Ça a de l'allure.
Ah, of course!
Comme c'est l'UFC qui charge 70$ pour McGregor Poirier, là, deux. Non, ça, c'est de la fraude. Ça, j'étais pas ça. Mais,
ça, c'est, ça s'en vient, c'est ça, right? Ça, ça va
ouais,
être
c'est
bon.
Samedi.
Bon? Pourquoi pas? Pourquoi tu penses pas que ça va être bon?
Mais moi, McGregor, je suis pas un fan. Là. Moi, il est très talentueux, mais il est même pas top 10 de tous les temps. Là. C'est juste qu'il sait se vendre. Il a les deux ceintures, c'est cool. Il a jamais défendu ses deux ceintures. Il est très talentueux, mais tu l'as mis contre Khabib, tu as vu que ça donnait. C'est un grand vendeur.
Khabib a une chance d'être le meilleur de tous les temps.
Comment?
Khabib, ça a une chance d'être le meilleur de tous les temps. Right? Oui. Fait que c'est normal que McGregor se soit fait raser par lui.
Se fait raser par Nate Diaz, puis Diaz est... Mais non, mais tu sais, puis je tout le bon tout. Point, bon point, il a perdu contre Matsuru aussi, fait qu'on peut... Mais,
bon point.
Je suis pas un fan de McGregor, puis il vend très bien, puis il est flashy, mais je veux dire, honnêtement, je resterai pas à 1h du matin pour regarder McGregor contre Dustin Poirier. Ça vaut pas la peine.
1h du matin, ça finit à 1h du matin, c'est compliqué.
Puis les combats d'avant sont pas écœurants non plus. Fait. Ouais, non, c'est très, très tard.
Pierre-Luc, on va retourner au soccer parce que l'Inter Miami s'est doté d'un nouvel entraîneur.
Oui, hey, c'est incroyable, hein, Inter Miami. Honnêtement, je dirais pas que je suis fan, mais j'apprécie énormément ce qu'ils font. Étienne, est-ce que tu as entendu la nouvelle?
Oui. Bon, mais c'est Beckham ramène ses chums.
Oui, Beckham ramène ses grands chums, c'est le fun. Écoute, l'Inter Miami continue de faire rêver, puis le compte de face poursuit, là, c'est Phil Neville, son ancien coéquipier de Manchester United, qui rejoint David Beckham à l'Inter Miami. C'est ça, Neville et Beckham, ils ont remporté plusieurs championnats de Premier League ensemble, et ben, tous les partisans des Red Devils, puis même tous les partisans de soccer, ils ont de quoi être heureux de les voir réunis. C'est une annonce qui a été faite lundi après-midi, puis ça survient seulement quelques heures après... que Neville a été libéré de son contrat en tant que sélectionneur de l'équipe nationale féminine d'Angleterre. Une question reste collée sur les lèvres. Est-ce que David Beckham et Phil Neville pourront de nouveau mettre la main sur des trophées ensemble? Seul le temps nous le dira.
Ce sera certainement à suivre de ce côté-là. Parlant d'entraîneur, moi j'ai comme l'impression que quand un entraîneur laisse un de ses joueurs prendre sa place de coach, sans dire long sur le pouvoir de cet entraîneur-là et sur l'importance qu'il a au sein de l'équipe. Hier soir, les Buccaneers de Tampa Bay ont défait là, les Saints de la Nouvelle-Orléans dans ce qui était probablement le dernier match de la carrière de Drew Brees. Tom Brady, qui lui continue à forger sa légende, a maintenant rendez-vous avec Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay, mais Vincent, cette victoire-là, ce n'est pas grâce au coach Bruce Arians que les Bucks ont été la chercher.
Je viens de recevoir une notification justement sur ça. Bruce Arians, le coach de Tampa Bay, vient de donner une conférence de presse dans laquelle il a dit « Je laisse Brady faire ce qu'il veut sur le terrain. » Là-dessus, je colle blippé. Bull, c'est un mensonge. Cet homme-là aurait tellement facilement pu coûter le match au box hier. OK. Bon, je me suis calmé. Là, je vais...
Bon.
L'affaire avec Bruce Arians, c'est qu'il est ce qu'on appelle en anglais un gunslinger. D'accord? Tous les corps arrière qu'il a eu au cours de sa carrière. La première saison qu'ils ont passée avec cet homme-là, dans son système, qui est très concentré sur lancer la balle le plus loin possible, le plus souvent possible, ont eu des mauvaises statistiques. Et c'est parce que c'est le système qui leur permet trop facilement de faire des erreurs. Je vous donne les exemples de Peyton Manning. Peyton Manning, c'est pas un 2 de pick. Peyton Manning, c'est un des top 3-4 meilleurs quarterbacks de tous les temps. Dans sa première année avec Bruce Arians, il a lancé 28 interceptions. Andrew Luck, première année avec Arians, 18 interceptions. Carson Palmer, qui est limite Hall of Fame, 22 interceptions. Jameis Winston, 30 interceptions. L'affaire avec Bruce Arians, c'est que c'est un homme très têtu qui va faire à sa tête, peu importe ce que ça fait à son équipe, puis il a beaucoup de difficultés à accepter que c'est pas la personne la plus intelligente dans la pièce, parce qu'il l'est souvent, mais dans le cas où il est dans une pièce avec Tom Brady, c'est certainement pas la personne la plus intelligente dans la pièce, d'accord? Donc, Brady, à chaque fois que c'est lui qui, comment est-ce qu'on dit, call the offense, à chaque fois que c'est Brady qui décide des jeux, les Bucks sont inarrêtables. Puis les instances où on voit ça, c'est à la fin des demi, quand le coach a pas le temps de caler les plays, les jeux, pardon, dans le casque de Brady. Donc, Brady doit improviser. Et c'est à ces moments-là qu'on voit des séquences d'événements très, très, très intelligentes et assez compliquées que les défenses ont beaucoup de difficultés à contrer. On l'a vu hier. En première demi, c'était cours avec Fournette, lance loin à Gronkowski. Cours avec Fournette, lance loin à Evans. Puis ça ne fonctionnait juste pas parce que la défensive des Saints était trop bonne. Par contre, dans les deux dernières minutes de chaque demi, ce qu'on a vu, c'est Brady se mettait en shotgun, fausse remise à Fournette, passe de 7 verges à Godwin, ensuite une course. C'était beaucoup plus diversifié, puis ça rendait l'offensive beaucoup plus apte à contrer les jeux défensifs des Saints. Et ça, c'est Brady qui le faisait, pas Arians. Et c'est la raison pour laquelle ils ont avancé, parce qu'ils ont été en mesure d'avancer le ballon dans les dernières minutes de chaque quart et dans les dernières minutes de chaque demi. S'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ et tout ce qui est saint dans ce monde-ci, on a besoin, avant la semaine prochaine, que Bruce Arians réalise que son système ne fonctionne pas pour Brady. On a besoin qu'il réalise, et je dis « on » parce que oui, je suis un partisan des Bucks pour les 3-4 prochaines semaines. J'ai un assez gros pari là-dessus. On a besoin que Bruce Arians réalise que Tom Brady, c'est l'homme le plus intelligent dans la pièce et qu'il fasse à sa guise tout le temps, parce que c'est la seule façon qu'ils pourront battre les Packers de Green Bay à Lambeau la semaine prochaine en finale de la conférence nationale.
Oui, effectivement, là, c'est pas en jouant comme ils ont joué hier qu'ils vont être en mesure de battre la machine des Packers, surtout pas au domicile de Green Bay. Ça va être assez compliqué, cette tâche-là. J'imagine qu'il va neiger encore une fois là aussi, donc assez différent de la température de Tampa Bay, on va pas se mentir.
On appelle ça du vrai football. Quand il fait froid, quand il y a de la slush, quand ça glisse, quand ça fait mal taper quelqu'un parce que le froid sting la peau. Ouh. Oh, juste à y penser, j'ai des émotions dans mes pantalons. Oh, je suis excité.
Et boy! Changeons rapidement du sujet. Mais restons dans le même sport. Thomas, est-ce que les jours de Deshaun Watson avec les Texans sont comptés?
Ben, c'est... Tout indique vers là. Vraiment, ça brasse à Houston avec Harden. Là, maintenant, Watson. Juste faire un petit historique de la relation entre Watson et les Texans. Si on peut remonter dans le temps jusqu'en mars 2020, l'échange de DeAndre Hopkins, qui est considéré comme le top 3 des meilleurs receveurs de la NFL, ils ont échangé aux Cardinals contre rien. À peu près. David Johnson et un choix de deuxième ronde. Ça, vraiment, Watson a pas apprécié ce geste-là puisqu'il a presque pas été consulté dans la décision. Il a pris ça sur Twitter, je me souviens bien. Donc, il était déjà assez mécontent envers l'organisation. Cette année, ça a été une saison vraiment catastrophique pour les Texans. Eux qui ont le troisième pays eux qui ont eu la troisième pire fiche à NFL et qui ont même pas leur choix de première ronde au prochain repêchage. Ils ont terminé la saison avec une fiche de 4 et 12, je me trompe pas. Et le mécontentement était assez présent à travers toute l'organisation des Texans. Même J.J. Watt s'est excusé à la fin de la saison envers Watson pour avoir gaspillé une de ses meilleures années. C'est ça. Pendant la saison, les Texans ont congédié leur entraîneur et directeur gérant, Bill Bryan, celui qui a fait l'échange de DeAndre Hopkins après un début de saison complètement catastrophique. Et dans les dernières semaines, ils cherchaient un remplaçant au poste de DG. d'habitude pour les équipes de la NFL, tu consultes au moins ton carrière, surtout si c'est un joueur d'attrente de Watson qui est considéré comme un carrière de franchise. Par contre, ils l'ont pas fait. Ils ont même pas consulté ce qu'ils pensaient de la décision avant d'embaucher Nick Casario qui était avec les Patriots. C'est une promesse qu'ils avaient reçue du propriétaire des Texans qui serait consulté lors de l'embauche du prochain DG, ce qui n'a pas été fait et ce qui a augmenté son niveau de mécontentement envers l'organisation, comme qu'il a dit, de 2 à 10. Donc c'est ça. À travers la NFL, on croit qu'il a joué sa dernière partie à Houston et qu'il devrait partir des Texans. La question est de savoir où est-ce qu'il va aller. T'as d'ailleurs un commentaire, Vincent, vas-y.
Yeah, thanks. Moi, je vais jouer l'avocat du diable là-dedans. Je suis d'accord que les joueurs aient plus de pouvoir puis que leur salaire soit mieux structuré puis qu'il y ait plus d'argent garanti. Mais Deshaun Watson, OK, c'est un bon joueur. Mais Deshaun Watson n'a absolument rien fait dans sa carrière pour mériter le droit de dire quelque chose dans l'organisation de l'équipe. C'est comme si Magda Fusaro venait voir Pierre-Luc ou moi ou Johan et disait « Hey, est-ce qu'on devrait remplacer Pat White comme doyen, comme directeur du programme de journalisme? » C'est vrai, on n'a rien fait pour avoir le droit de dire quelque chose sur l'organisation de notre programme. Absolument pas. Regarde, Deshaun Watson, c'est un bon joueur, il est excellent. Mais il n'a pas son mot à dire dans l'organisation de l'équipe du tout. Il n'a rien fait pour mériter ça. Puis regarde, il a signé contre.
T'as raison là-dessus. Peut-être que ça va venir dans un certain futur, mais Deshaun Watson, on est loin de Tom Brady. Là.
Oui, bon, on parle quand même de ton carrière de franchise et c'était également une promesse qu'il avait reçue du propriétaire. Là, rendu là, si tu.
Ouais, mais.
Puis je promettais aussi à mes parents que je ne buvais pas d'alcool le vendredi soir, mais je le faisais quand même.
Des promesses, ça ne veut rien dire, surtout dans ce monde-là.
Oui, effectivement, c'est vrai. Donc, les destinations possibles pour Deshaun Watson, on parlerait des Dolphins. Il y a eu d'ailleurs des rumeurs d'échange comme quoi qu'on aurait droit à une méga transaction entre les Texans et les Dolphins, incluant Tua Tagovailoa et des choix. On parlait également des Panthers qui ont démontré leur intérêt aujourd'hui, eux qui cherchent un carrière depuis un petit bout, et les Saints avec la retraite probable de Tom Brady. Ce serait une très bonne transition, passer de Drew Brees à Deshaun Watson. Je sais pas pourquoi j'ai dit Brady tantôt. donc c'est ça, ce sera intéressant de voir ce qui va en arriver avec Deshaun.
Absolument, ça va être à suivre. Là. En effet, les équipes de Houston dont les rumeurs là, ne cessent d'affluer.
Avant de passer à autre chose, faire un commentaire que toi, tu vas bien aimer puis avec lequel tu es sûrement d'accord. Houston, les équipes sportives, ça a tout explosé depuis que les Astros se sont fait
connu. Oui.
C'est un, comment on dit, curse, c'est la malédiction de tes bons les Astros.
Absolument. J'ai écouté une vidéo l'autre jour où c'était justement ça. Le gars expliquait à quel point ça va mal à Houston depuis que les Astros ont gagné la Série mondiale en trichant. C'est assez rock'n'roll là-bas, en effet. Généralement, quand on fait des revues de l'année à travers le sport, c'est rare que ce qu'on va retenir comme étant l'événement de l'année, que ce soit le but, la passe, le jeu, le match ou le combat de l'année, soit parmi les premiers événements ou les premiers matchs de l'année, voire même au mois de janvier. Pourtant, Étienne, le combat Max Holloway contre Calvin Kattar a des grosses chances de se retrouver parmi les nominés pour le combat de l'année, même s'il s'est déroulé pendant le premier événement de 2021.
Ça n'a Juste de vous parler de ce combat-là, ça me rend aussi énervé que... en fait, je viens d'apprendre que Weezer sort un nouvel album la semaine prochaine. C'est le même sentiment, là, exactement. C'était samedi dernier, c'est le premier événement de l'année. J'en avais parlé parce qu'il y avait le gars du coup de pied, Joaquin Buckley, qui s'est fait mettre KO en 4 minutes. Ça n'a vraiment pas été long. Son hype vient de ce venir-là. Il y avait un de mes favoris également, Santiago Ponzinibbio, qui s'est également fait sortir en 4 minutes. Non, Joaquin Buckley, c'est en 2 minutes. Santiago Ponzinibbio en 4 minutes. Donc, ça allait vraiment bien ma soirée d'ici là. Mais après ça, on a été vraiment à l'aise avec un Matt Brown, Carlos Condit. Excellent combat pour le début des années 2010. Mais après ça, on a eu Max Holloway contre Calvin Kattar. Et puis, les amis, j'en ai vu des combats dans ma vie. Mais celui-là, particulièrement, était magique, était malade, c'était complètement fou. Max Holloway a pris Calvin Kattar, il l'a habillé, il a dit « tu t'en vas dans le coin là », puis il l'a tabassé pendant 25 minutes, c'était hallucinant. Juste pour vous dire, Max Holloway, dans ce combat-là, a lancé 445 frappes significatives. 445! C'est fou.
C'est incroyable.
C'est un coup significatif, c'est une frappe qui améliore significativement ta chance de gagner dans le combat. 445, c'était vraiment... Bon, je pense que ce combat-là manquait d'un peu de puissance. Thomas, oui, vas-y.
La moyenne de coups significatifs dans un combat de UFC, c'est à peu près combien, juste pour donner une idée?
J'ai vraiment pas de comparatif parce que des combats, un combat peut en gagner en n'ayant aucun coup significatif si on s'en va au sol puis qu'on décide de faire une soumission. Donc, tu sais, mettons qu'on veut donner une moyenne, là, pour un bon combat, ça peut être, je sais pas, une trentaine par round puis ça a de l'allure, donc on arrive à peu près 100. Tu sais, t'en lances 100, c'est un bon combat. Juste dire, t'en lances à peu près 100. Max Holloway, en fait, avec ce combat-là, a battu la marque des 2500 coups significatifs dans sa carrière. Puis la deuxième personne, c'est Joanna Jędrzejczyk avec 1900. Donc, il y a 600 coups significatifs entre la première et la deuxième position. Donc là, on a quelque chose. Je pense que Max Holloway a manqué de puissance parce qu'avec 445 coups, dans un combat normal, ça n'a aucun rapport. Là, Calvin Kattar aurait dû tomber, aurait dû se faire passer un KO qui soit net ou technique, mais ça n'a pas été le cas. Holloway a vraiment fait tout ce qu'il voulait. Je pense notamment au quatrième round où, bon, j'ai pas les statistiques round par round. En fait, je vais réussir à les avoir là, mais c'était au quatrième round, Max Holloway a lancé. Ah, j'allais dire seulement. 89 coups significatifs à la tête, 141 en tout dans le round, puis ça allait de partout. Max Holloway est allé en volume, a été précis à la fin du combat, criait au commentateur en regardant même pas Calvin Kattar et a réussi à lui mettre un coup au visage sans qu'il regarde son adversaire. C'était vraiment complètement fou. Puis qu'est-ce qui a rendu le combat encore plus excitant? C'est que Kattar continuait à rester debout. Puis Kattar, c'est un combattant qui met souvent qui a vraiment beaucoup de puissance. Donc, jusqu'à la toute fin, on pensait que Kattar allait... Kattar aurait, dans le domaine du possible, pu surprendre Holloway avec une droite et le mettre KO, mais ça n'a pas été le cas. Victoire assez unanime de Max Holloway, qui était le premier numéro 1 de la catégorie, là, tout juste derrière le champion des poids plumes. Donc là, il vient quand même de se confirmer comme un vrai contender, lui qui a perdu son titre face à Alexander Volkanovski il y a quelques mois. Donc Max Holloway, puis je veux juste donner après ça, je veux juste donner le scoring là. Les juges ont donné 50-43 deux fois et 50-42, juste pour vous dire là, on donne 19 un combat, puis si on trouve qu'un par round, puis si on trouve qu'un round a été très dominant, on donne 18. 50-42, ça veut dire que sur les 5 rounds, il y a un juge qui pense que Calvin Kattar a été dominé outrageusement 3 fois. J'ai jamais vu ce scoring-là. C'est hallucinant. Donc, combat du mois, assurément, puis peut-être un des candidats au combat de l'année, là, Holloway versus Kattar. Puis c'est disponible encore une fois demain, mardi soir sur RDS. Ça que je vous invite vraiment, vraiment à regarder ce combat.
Je viens vite de faire mes recherches, puis j'ai trouvé que en fait, le combat de l'histoire avec le plus grand nombre de frappes significatives, ça a été The Rock contre Vin Diesel dans The Fast and Furious. Ça, c'est numéro 1. Puis numéro 2, je suis pas sûr que c'est The Karate Kid contre Johnny Lawrence en 84.
Mais ton premier combat, par exemple, passerait pas le test en dito page de l'UFC, je pense.
Ah non, non, c'est pas ça.
Pierre-Luc, pendant qu'Alfonso Davies fait la renommée en fait, du soccer canadien avec le Bayern Munich, il y a Sébastien de Breza qui, lui, il commence également à faire un nom pour lui-même. Là, parce que là, il s'est taillé une place sur le banc, mais c'est quand même pas rien en Serie A avec le FC Bologne.
Ouais. Grosse différence entre Davis et Breza. Davis, c'est un partant. Breza, écoute, il fait sa place en ce moment. Bon, il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'il est où il est présentement. La raison pourquoi, dans le fond, je vais vous expliquer ce qui se passe. Breza est sur le banc depuis les trois dernières rencontres. Je me souviens, cet été, là, j'ai sorti une entrevue avec lui, puis j'ai discuté avec lui, puis on a gardé un bon lien de contact. Puis il me dit « Ah, tu sais, moi, je m'entraîne, puis tu sais, je travaille fort pour un jour arriver éventuellement à avoir ma place sur le terrain. » Puis ben, là, cette semaine, même la semaine passée, il a déjà fait un premier pas vers ça. C'est qu'il a été parmi les joueurs qui sont sur le banc. Normalement, on dit dans les 18 joueurs, mais là, bon, il y en a plus à cause de la COVID-19. Mais bon, il en fait partie. C'est quand même un exploit. C'est trois rencontres. Il n'a pas été sur le terrain. Et puis, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un des gardiens substituts, Federico Ravaglia, qui a déclaré positif à la COVID-19. Donc, on présume qu'il a été en remplacement à lui. Mais ceci étant dit, il n'y aurait pas eu cette responsabilité-là s'il n'avait pas fait les preuves. Donc, de ce côté-là, c'est déjà un exploit. Et puis, bon, éventuellement, j'ai déjà l'intention de m'entretenir avec Sébastien de Breza encore parce que, bon, j'ai accès à lui puis j'aimerais ça savoir aussi qu'est-ce qu'il va avoir appris de cette expérience-là puisque je présume, de ce qu'on voit présentement, s'il taille une place sur le banc, il a fait beaucoup de progrès. Et puis, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Sur cette dernière note très positive pour le Soccer Canada, ouais, on lui souhaite d'obtenir du temps de jeu très rapidement. Éventuellement, on espère que ce soit cette saison. Sinon, je suis confiant qu'il va avoir enfin ses minutes très, très bientôt.
Fait partie des camps de... vas-y, Ayoan.
Non, vas-y.
Ouais, il fait partie des camps U23 d'équipe Canada également. Là, va battre pour un poste de partant avec James Pantemis aussi, le gardien de l'Impact de Montréal. Donc, ça va être intéressant de voir aussi son parcours en équipe nationale là, sous Mauro Biello, qui je crois est encore l'entraîneur des U23 au Canada. Là, donc,
ouais, c'est intéressant. Dit. Oui, ça va être intéressant aussi. Puis pour ceux qui ne savent pas, Bologne, c'est l'autre club de Joey Saputo, le propriétaire de club de foot Montréal. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan avec notre club frère, si on peut dire.
Mm-hmm. Thomas, tu avais quelque chose à ajouter?
Oui, moi j'ai une question pour les deux gars de soccer, Étienne et Pierre-Luc.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez des chances du Canada pour la Coupe du Monde de 2026? Parce qu'on sait que, comme ils sont payés, ils ont sûrement leur place assurée. Là. Je sais pas.
Ben, c'est pas assuré parce que là, il y a trois pays hôtes. Fait que là, c'est à savoir si ça. Parce que là, sinon, la CONCACAF a 3 ou 4 places pour la Coupe du Monde. Donc, si on décide d'y aller avec le Canada, les États-Unis, le Mexique. Bon, peut-être qu'on va laisser une autre place pour un club de la CONCACAF en Coupe du Monde. Donc, ça va être. Pour ça, la place n'est pas nécessairement assurée pour 2026, quoique ça va quand même bien. Bon, il n'y a pas de nouvelles là-dessus, puis je pense qu'il n'y avait rien de sorti. Mais il y a une belle génération qui s'en vient en équipe nationale avec les joueurs canadiens, mais tu sais, c'est tellement difficile à dire. On va être rendu où dans 5 ans. Quoique avec un Jonathan David qui présentement marque avec Lille. En France. Lille, merci.
Oui, à Lille, oui.
Alfonso Davies qui joue quelques matchs au Bayern, là, il voué à une très très grande carrière. Après ça, il y a d'autres quand même bons joueurs qui poussent, mais je pense pas qu'avec le Canada à court moyen terme, ça va être une puissance.
Ça ne sera pas une puissance dans les prochaines années. Peut-être dans le futur, on ne sait pas. Ceci étant dit, le Canada, oui, ils ont des joueurs quand même clés, puis on est en train de bâtir une certaine génération pour le futur. Mais on n'a pas un effectif avec des joueurs complets à chaque poste. Donc, peut-être que le Canada va se qualifier pour la Coupe du Monde de 2026, mais on n'aura pas une équipe de calibre pour compétitionner contre tous les gros noms. Ça, c'est sûr que non.
C'est peu potentiellement dans les favoris pour gagner la Gold Cup, les compétitions continentales, mettons, mais mondiales. on est encore très, très loin de...
Non, effectivement, là, pour le Canada, ce n'est pas demain là, qu'on va parler d'une équipe aspirante, que ce soit en Coupe du Monde ou en genre de compétition internationale là, qui regroupe les puissances européennes et africaines et sud-américaines et ouais, tout le kit. Vincent?
Oui, juste un petit commentaire rapidement là-dessus. Puis c'est une conversation assez contentieuse, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont. J'ai l'impression que si le Canada, comme les pays européens, puis les pays africains, puis les pays asiatiques, si au Canada, on mettait nos meilleurs athlètes au soccer, j'ai l'impression qu'on serait quand même une puissance mondiale, dans le sens où nos meilleurs athlètes vont tous jouer au hockey, nos meilleurs athlètes vont tous jouer au basketball. Si on mettait nos meilleurs athlètes au soccer, je suis pas mal sûr que nos meilleurs athlètes sont meilleurs que les meilleurs athlètes français ou belges. Donc, moi, je le vois de même. Hein. C'est la même chose pour les États-Unis. Si tu mettais LeBron James ou si tu mettais des boys comme ça, comme Damian Lillard puis John Wall au soccer, il n'y a personne qui battrait les Américains. Puis je pense que c'est la même chose. Ce serait la même chose pour nous avec R.J. Barrett, Tristan Thompson et tous ces monstres-là.
C'est sûr que si le programme de développement de soccer était aussi important et aussi complet que le programme de développement de hockey au Canada, ben, il y aurait moins de problèmes. Mais tous les pays font des choix au niveau de ça. Chaque pays a son sport. T'sais. Tous les pays comme le Portugal, l'Argentine, tout ça ont... C'est pas des grosses puissances au hockey ou au basketball. Là. Donc, c'est vraiment, il y a une parité à ce niveau-là un peu partout dans le monde.
Mais le soccer grimpe en popularité aussi au Québec. Là. Mais tu sais, ça vient assez également. Là. Pourquoi l'Islande, qui sont gros comme Laval, ont réussi à faire le quart de finale de l'Euro en le 5 ans?
Parce qu'ils ont le pouvoir de Odin derrière eux.
Oui, les Suns, il y avait la célébration là, qui m'a tapé ses nerfs.
Le Viking Class.
Après, là, oh, ouais. C'est incroyable.
Incroyable, en effet. Tout comme le fait que ça fait une heure qu'on se parle. C'est donc l'heure de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Vincent Relana Pépin, Étienne Boutier, Pierre-Luc Mongeon et Thomas Lafond, merci énormément pour vos nouvelles et ce retour en force sur l'actualité de la dernière semaine. À vous à la maison, j'espère que tout se passera bien et qu'on aura encore plus de sujets intéressants à discuter avec vous la semaine prochaine. D'ici là, je suis Yoann Carrière au nom de toute l'équipe du Club Éco. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit mardi prochain.
Allah.